Avec aujourd'hui le plaisir de recevoir un photographe, il s'appelle Dominique de Risbourg. Il publie un gros livre, un beau livre de photographies, une centaine de personnalités qui sont passées devant son objectif. Sous le titre de « Tous égaux », il s'agit de lutter contre la maladie, le cancer, vous l'aurez compris. Exposition à voir à partir de vendredi à la Ferrari Art Gallery, ça se trouve à Vevey sur le quai. Perdonnez, vous ne pourrez pas la louper, il n'y en a pas tant que ça des galeries sur ce quai. Nous allons parler de son travail avec lui, ce sont des portraits tout à fait saisissant, de face, avec quelques particularités, mais là encore, je laisse planer le suspense. Partie cinéma aujourd'hui dans cette émission. Raphaël Wolf, bonjour.
Bonjour.
Alors, plein de choses à chroniquer, plein de films à voir, plein de malheureux et d'heureux à faire, en quelque sorte.
On verra ça tout à l'heure. Alors, pour les pleins des films, justement, on va commencer par Une nouvelle amie, le nouveau film de François Ozon, un film transgenre avec Romain Duris en travesti. On va enchaîner avec un film new-yorkais qui s'appelle Love is Strange, d'Ira Sachs, avec un couple d'homosexuels seniors qui a quelques problèmes d'habitat. Vie sauvage de Cédric Kahn, que vous avez reçu aussi, je crois, la semaine dernière, avec Mathieu Kassovitz, qui va enlever ses deux fils pour les élever dans un mode de vie plus alternatif. Et puis Serena de Suzanne Beer, un mélodrame avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper, aux États-Unis dans les années 20. Et puis si on a un tout petit peu de temps, on va parler d'un film au titre un peu étrange qui s'appelle Vic et Flo ont vu un ours.
Oui, un film du Canadien Denis Côté. Et quant à vous, Mathieu Chevrier, je crois que vous allez nous poser une question.
L'iPod est-il mort ou n'est-il pas mort?
Vous avez quelques minutes pour réfléchir.
Sur la première, c'est Vertigo jusqu'à 18h.
Bonjour Dominique de Risbourg.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette émission. On est ensemble pour ce qui nous concerne jusqu'à 17h30. Il y aura bien évidemment le journal à 17h. Dominique de Risbourg, photographe, vous publiez donc ce livre. Et il y a à côté cette exposition à la Ferrari Art Gallery à Vevey. Ce livre s'appelle « Tous égaux ». C'est une centaine de portraits de personnalités. Portraits assez particuliers, il faut bien le dire, car peu ou prou, ces personnalités-là prennent la même pose, sont cadrées quasiment de la même façon, avec quelques petites subtilités photographiques que vous nous expliquerez tout à l'heure. C'est difficile de résumer votre parcours, vous êtes photographe, voilà. Alors vous faites plein de choses, comme tous les photographes. Vous faites de la mode, de l'art, des expositions, des livres, vous travaillez pour la presse. Vous avez fait notamment une quinzaine d'années pour le magazine Femina. Exactement. C'est vous qui signez des photos de mode de ce magazine. Et puis, comme beaucoup de gens dans ce pays, eh bien vous sortez de l'école de photos de Vevey.
Eh oui.
Hein, voilà.
Eh oui.
C'est en gros une sorte de parcours que l'on peut résumer comme ceci. Ce qui nous intéresse, c'est ce livre-là, Tous égaux. On peut en voir des images par ailleurs sur votre site internet, si jamais cela vous titille pendant que vous nous écoutez. Je disais donc que c'est un livre étonnant parce que vous nous proposez des portraits de personnalités qui ont décidé de se mettre à nu. Alors à nu, entendons-nous, les épaules sont dénudées. C'est en tout cas ce que l'on voit sur les photographies. Et ce sont des portraits pris de face, de la façon la plus simple, la plus brute, la plus naturelle possible. Il n'y a pas d'artifice, pas de maquillage, c'est le regard.
Exactement. J'ai voulu aller un petit peu à l'envers de ce que j'ai fait pendant très très longtemps. Et là, je voulais que les gens, plutôt que de prendre des gens en photo, je voulais que ce soit eux qui m'offrent leur regard. Donc l'idée, c'était un peu de faire un genre de photomaton. Donc de mettre les gens dans une situation assis sur la même valise, pour être à la même hauteur, sur le même fond, qui attire pas le regard, avec une lumière qui est très très simple, très basique, pour pas embellir. Et puis de demander aux gens de regarder la caméra, l'objectif, comme si un peu ils regardaient un miroir, comme s'ils étaient seuls devant un médecin, ou je dirais même comme si ils étaient dans un appareil de radio, donc seuls, livrés à eux-mêmes, et je les laissais donner le regard qu'ils avaient envie de donner d'eux-mêmes, sans les guider. Je les guidais juste pour, si j'avais l'impression que j'avais toujours les mêmes photos, pour juste les rendre attentifs au fait de certains détails, mais c'était eux qui donnaient leur regard.
Ce qui par ailleurs a surpris pas mal de ces personnes photographiées qui pour beaucoup ont d'ailleurs l'habitude d'être photographiées, l'habitude d'être guidées dans une séance de photo, plus comme ceci, plus comme cela, non regardez-moi, ne me regardez pas. Et là, parfois certains étaient un peu désemparés.
C'est vrai que certaines personnes habituées à être photographiées, à maîtriser leur image, là se retrouvaient vraiment comme s'ils étaient le matin devant leur miroir. Donc je leur disais rien, je leur expliquais. Soit les gens savaient exactement ce qu'ils avaient envie de montrer comme regard par rapport à la joie, à la maladie, par rapport à l'espoir, parce que le but de cette exposition, c'était de reverser 50% de tout ce qui va être vendu pour Fondaction, donc une fondation qui fait la recherche sur le cancer, dont le professeur Lévrel est président. Et l'idée, c'était de, pour moi, la recherche, c'est pas automatiquement la tristesse, ça veut dire que c'est de l'espoir.
C'est de l'espoir, bien sûr. Oui.
Grâce à la recherche, grâce à l'argent qu'on peut récolter, on fait travailler des chercheurs. Et puis ces chercheurs, trouvent des solutions pour aider notre famille, pour aider nos enfants, pour nous aider peut-être nous-mêmes un jour.
La première personne photographiée même, c'est Gérard Rabé, l'ancien chef du Pont de Branle, qui, lui, a survécu à un cancer. C'était important, j'imagine, de commencer la série avec lui ou c'était un hasard ?
Alors, c'était important, mais je disais que c'est une connaissance, c'est un ami que je connais depuis très très longtemps. Donc, évidemment, je savais qu'il avait été malade, et puis je savais surtout qu'il œuvrait beaucoup pour Fondaction. Donc, vu que je voulais faire ce projet pour cette fondation, ça me paraissait évident de lui demander à lui. En plus, j'avais besoin un peu d'un genre de cobaye, indolore cette fois-ci. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à faire des essais de lumière pour voir un peu quelle lumière je pourrais utiliser sur les personnes. Il fallait aussi que je règle le problème des empreintes, parce que je voulais aussi prendre les empreintes des personnalités pour montrer un peu symboliquement la trace qu'on laisse de notre passage. Donc il m'a vraiment aidé, il m'a donné plein de conseils et puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis après effectivement, ce genre de projet, on appelle des gens pour pouvoir avoir des nouvelles personnes. Donc c'est clair que le professeur Lévra a utilisé son carnet d'adresse absolument important pour pouvoir demander à des personnalités d'accepter ou de refuser. Et Gérard Rabé m'a aussi aidé par rapport à certains cuisiniers.
Il y a beaucoup de cuisiniers dans ce livre.
Il y a beaucoup de cuisiniers parce que c'est un peu mon univers de photos actuellement, première chose. Deuxième chose, ce projet, il avait un intérêt vu qu'on photographie les gens toujours épaules dégagées. Je voulais absolument arriver à enlever la fonction de la personne par son habit. Quand on voit un cuisinier, il a toujours un habit de cuisinier. Quand on voit un chef d'entreprise, il a une chemise et une cravate. Quand on voit un professeur de médecine, il a toujours une chemise, une blouse blanche. Là, quand on enlève la partie haute de l'habit, on est un peu déstabilisé. On reconnaît certaines personnalités, on a la peine à les reconnaître parce qu'on est habitué à voir certaines personnes avec une chemise à carreaux. Et puis là, on les retrouve complètement dénudées, c'est-à-dire juste les épaules dégagées. Et c'est un peu déstabilisant.
Vous avez réussi l'exploit, en tout cas, de faire poser Jean-Claude Biver sans qu'il y ait la moindre marque, le moindre logo de l'entreprise horlogère qu'il représente, sans même qu'on voit une montre quelque part. Alors ça, c'est vraiment l'exploit.
Je ne sais pas si c'est un exploit, mais je pense que Jean-Claude Biver, la relation que j'ai eue avec lui, c'est quelqu'un d'une générosité absolument incroyable. Ouais. J'ai eu son mail, je lui ai envoyé un mail avec la description du projet, alors que le projet était au début, c'est-à-dire qu'il y avait genre trois personnes qui avaient été photographiées, et puis pas des gens très connus. Et il a répondu par retour de mail en disant « c'est ok, comment on fait ?» Alors je lui ai dit « voilà, ça se passe comme ça ». Il m'a dit « ok, rendez-vous tel jour, telle heure ». Il a retardé un rendez-vous pour une raison familiale. Le deuxième rendez-vous était le bon. Je suis arrivé chez lui. Il était juste un peu surpris parce qu'il s'attendait. Je pense qu'il avait vu le projet, mais peut-être que sur un téléphone portable, on se rend peut-être moins compte. Il a été juste un peu surpris que je lui demande d'enlever sa chemise. Puis il m'a dit ah bon, ok, pas de problème. Après, je lui ai dit il faut enlever les chaussures, les chaussettes. Il m'a dit ah bon, c'est quoi ? Puis je lui ai montré le projet. Il m'a dit bon, ok, c'est bon. Et là, et puis ça s'est passé d'une manière très très simple. Il y a d'autres personnes connues chez qui je suis arrivé chez ces personnes. Et puis quand je leur ai demandé d'enlever la chemise, qu'on refusait.
Ah.
Ils avaient peut-être pas bien lu, ou bien je voulais pas montrer leur épaule, peut-être.
On ne dira pas de nom ici. On ne dira pas de nom. Beaucoup de personnes ont refusé de participer à votre projet, Dominique de Risbourg.
Écoutez, j'en ai photographié à peu près une centaine, et je dirais que j'ai demandé à une centaine d'autres personnes. Donc, il y a à peu près une centaine de personnes qui ont refusé. Donc, il y a des gens qui ont refusé pour des raisons tout à fait respectable et puis pour des raisons logiques. Et puis, je dirais qu'il y a une partie de personnes qui répondent jamais. Donc, on essaie de les relancer par des mails, on essaie d'avoir leur téléphone portable, on essaie par l'intermédiaire d'amis qui vont les brancher. Et puis, il y a des gens qui répondent pas. Donc, on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas s'ils avaient envie, s'ils voulaient pas, ou on ne sait pas.
Est-ce que ce projet-là, finalement, Tous Égaux, donc, je le rappelle, qui est destiné à sensibiliser sur la recherche contre le cancer, est-ce que ce projet-là, finalement, c'est pas si facile que ça à mener? C'est-à-dire que lorsqu'on s'adresse à des personnalités pour qu'elles soient photographiées dans un projet de ce type-là, Dominique de Risbourg, on imagine bien qu'évidemment, il y a peut-être un enthousiasme en se disant « bien sûr que je veux de la recherche », puis il y a peut-être aussi peut-être un frein, une question de pudeur, pourquoi moi, pourquoi est-ce que je me mettrai en avant pour ce type de projet?
Alors, c'est vrai que c'est, je pense, plus facile de travailler sur un projet comme ça pour aborder certaines personnes que si on travaille sur un projet qui n'a pas cette, cette sensibilité ou cette...
dimension-là.
Cette dimension-là. Ouais. Alors, les personnes connues qui ont accepté, en général, les gens, ils ont été très touchants parce que beaucoup se sont un peu livrés. On se retrouve devant, d'un côté, vu que je photographiais ces gens et que je les laissais m'offrir ce qu'ils avaient envie de m'offrir, beaucoup de personnes m'ont raconté des histoires. Donc, il y a des gens qui ont vécu la maladie, qui ont dû vaincre la maladie, qui ont dû lutter contre cette maladie. Il y a des personnes qui ont eu des gens très proches d'eux. Et c'est vrai que ça a été très, très émouvant. De discuter et ces gens, les gens qui ont accepté, parce que dans ce projet, les gens qui ont accepté, c'est juste uniquement des gens qui sont généreux, ces gens qui ont accepté, après, ils se sont pliés de bonne grâce au projet, qui est un peu
certains
bizarre.
Certains ont même ouvert leur carnet d'adresse.
Alors, c'est clair que, je dirais qu'il y a des personnalités qui ont ouvert leur carnet d'adresse de manière absolument incroyable. Je pense que je peux citer des noms.
Mais faites.
Voilà. Donc, c'est clair que le professeur Lévra, il avait un carnet d'adresse par rapport à sa fondation, il a beaucoup aidé. Ouais. Des gens comme Patrick Delarive aussi, il était surpris, intéressé. Et il est venu faire la photo et après il m'a dit mais je peux faire comment pour vous aider? Alors je dis est-ce que je pense que vous connaissez du monde ou comme et puis donc il a sorti son téléphone portable et puis il m'a listé un nombre de personnalités assez importantes et puis toutes ces personnes après il les a contactées lui directement et les gens ont accepté.
Comme quoi
il faut demander.
Et voilà, tout simplement, on ne risque rien à demander.
Exactement.
Dominique Dorisbourg, on ne va pas s'étaler sur la partie technique de votre travail, mais malgré tout, expliquez-nous quelque chose à propos de ces photographies. Il y a 3 photos en une, c'est ça ?
Exactement. J'avais envie de retrouver un peu ce regard des gens un peu absents, des photos du début du siècle, à l'époque où les films étaient très peu sensibles, donc il fallait un temps de pause très très long. Donc les gens étaient un peu fixés dans un studio photo, avec pratiquement une genre de petite tige derrière la tête, pour que la tête ne bouge pas, et le temps de pause pouvait durer jusqu'à 20 secondes. Donc vous imaginez, vous regardiez la caméra de manière très très fixe. Et je trouvais que dans la photo, il y a un rapport avec le temps. On photographie au millième de seconde, au quart de seconde. Et j'avais envie de retrouver un peu ce regard un peu étrange. Donc je pouvais pas faire poser les gens pendant 20 secondes. Donc j'ai trouvé une autre solution en faisant 3 images au flash. Donc j'ai 3 images à peu près à un intervalle d'une seconde. Donc les gens, je leur demandais de ne pas bouger et de penser à la même chose. Et ces 3 images après sont simplement additionnées les unes sur les autres. Et ça donne un effet un peu où il y a un petit flou à certains endroits. Il y a la netteté à d'autres endroits. Et puis, peut-être naïvement, j'imagine que le temps étant plus long, on a une concentration d'un regard, une concentration, on fait durer le temps.
En effet, lorsqu'on regarde ces images, on est assez impressionné par leur dureté d'une certaine manière, ou plutôt peut-être même par leur précision en fait. Voilà, vous parlez de flou, de netteté à un endroit ou à un autre, mais il y a quelque chose de très fort, brut, comme du matériau brut qui se dégage de ces portraits.
C'était un peu le but du jeu parce que souvent quand on fait des photos de mode ou des photos publicitaires, on maquille les gens. Donc on a déjà un genre de filtre créé par le maquillage. Là, les gens n'étaient jamais maquillés. Donc les hommes, évidemment, pas maquillés. Les femmes, c'était un des grands défis. C'était d'arriver à accepter à ce que des femmes qui maîtrisent une image à la télé, qui maîtrisent leur image dans les médias, acceptent qu'on les photographie sans aucun maquillage. Alors, je dirais, la seule petite nuance que j'ai acceptée, c'était un petit peu de mascara sur les cils parce qu'on me faisait croire que c'était du mascara permanent. Bon, je suis pas dupe, mais on va dire que j'ai accepté cette règle. Mais les gens ont accepté réellement de se faire photographier sans maquillage. Donc, sans maquillage, avec une lumière qui n'était pas faite pour embellir les gens, on a une certaine dureté. On a un peu cette lumière qu'on peut avoir le matin dans notre salle de bain. Quand on se regarde, on se demande, mais la tête qu'on a.
Et pourquoi je suis tout vert ?
Et pourquoi j'ai tout vert ?
Alors, l'intérêt du noir et blanc.
D'où l'intérêt du noir et blanc. C'est vrai que le noir et blanc, ça permettait un peu d'unifier les tons de peau, éviter les petites rougeurs, les choses comme ça. Le but, c'était pas de faire des photos, de pas d'embellir les images, pas de faire des images esthétisantes, mais le but, c'était pas non plus d'enlaidir les gens.
De faire peur aux enfants lorsqu'ils ouvriront le livre.
Oui, ou peur aux gens eux-mêmes.
Dominique Dorisbourg est notre invité. Tous Égaux est un projet photographique, vous l'aurez compris, qui se décline dans un livre, mais également dans une exposition à la Ferrari Art Gallery. Ça commence ce vendredi et ça se trouve à Vevey. Voici Vanessa Paradis. Pas besoin de permis. Pas besoin de permis. Pourquoi ? Je ne sais pas. Écoutons-la. Elle dit tout dans cette chanson. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
Si t'as la moyenne en rien, tu pourras faire Condé. Ou pourquoi pas musicien ? Ma maman me disait, si t'as la moyenne en rien, contient par le collier. Si t'es économe, que tu fais pas de bruit. Si t'es dans la norme, que tu restes assis.
ficelle. Dis-le-toi, dis-toi le bien. La vie, la vie, la vie, c'est comme on tracte au pelle. T'as besoin de permis, t'as besoin de permis. Si t'as la moyenne en rien, tu pourras faire curé ou pourquoi pas mal. Dis-le-toi, dis-toi le bien. La vie, la vie, la vie, c'est comme un tractopelle. T'as besoin de permis. T'as besoin de permis. T'as besoin de permis. Serre un peu les poings, tu vas te régaler. Si t'as la moyenne en rien, tu peux te faire lire. Même si ça ne sert à rien, c'est mieux que le vol à la tire. Si t'es économe, que tu fais pas de bruit. Si t'es dans la norme, que tu restes assis. Si t'as des carences, pense à ton maudit. En toi l'évidence, tu peux réussir ta vie. Si t'as la moyenne en rien, tu peux faire des étincelles. Si t'as la moyenne en rien, ta limite sera le ciel. Dis-le-toi, dis-toi le bien. La vie, la vie, la vie, c'est comme un tractopelle. Pas besoin de permis. Pas besoin de permis.
Vanessa Paradis, une chanson coécrite avec Benjamin Biolay, pas besoin de permis. À 16h48 dans Vertigo, notre invité est le photographe Dominique Dorisbourg pour ce projet intitulé Tous égaux, c'est à voir à la Ferrari Art Gallery à Vevey à partir de vendredi. Et c'est également un livre, il y aura également une vente aux enchères dont 50% des profits iront à fonds d'action pour lutter contre le cancer. On va revenir à vos images, Dominique Dorisbourg. Images ou photographies d'ailleurs, je crois savoir qu'il y a débat chez les photographes.
Alors franchement, ça me... Image et photographie, ça m'est égal.
Un peu vous chaud. Très bien. On en revient encore à ces images-là qui sont très brutes. On le rappelle, les personnes que vous avez photographiées, qui sont toutes des personnalités, posent les épaules dénudées, le regard droit, planté devant l'objectif. Alors certains ont des attitudes, on va dire, la tête plus ou moins rentrée dans les épaules, ou les épaules qui remontent plus ou moins autour du cou, la tête penchée, on se penche un peu plus vers l'objectif, on se recule, ou alors on se tient très très droit. Mais il y a quelque chose de probablement peut-être même de plus intime que d'être totalement nu devant un appareil photo lorsqu'on est comme ça, le regard planté dans l'objectif.
Oui, parce que déjà, on ne montre rien. Donc, on peut imaginer plein de choses, première chose. Là. Et puis, le fait d'avoir ce regard qui est très, très présent, qui est presque inquisiteur, certains regards sont presque dérangeants. Il y a, de mémoire, comme ça, il y a le portrait de Philippe Serre, ouais. qui est d'une violence absolument, voilà, absolument incroyable. Chacun a décidé de montrer ce qu'il avait envie de montrer. Donc, il y a des gens qui étaient gays, il y a des gens les gens me disaient, mais on peut sourire. Je dis, si vous avez envie de sourire, il n'y a aucun problème. Vous voulez rire, vous riez. Si vous voulez être triste, vous êtes triste. Chacun était libre de montrer le regard qu'il avait envie de m'offrir, d'offrir à Fonds d'Action, le regard qu'ils avaient envie d'offrir.
Et puis, tout à coup, on découvre certaines personnes, sans leurs lunettes, d'ailleurs, à part une, mais on découvre certaines personnes de face avec leur regard, c'est-à-dire sans les lunettes, sans la pose, sans le maquillage, sans rien. Là aussi, c'est aussi, j'imagine, pour eux parfois peut-être dérangeant.
Alors le choix des lunettes ou pas des lunettes, c'était libre à chacun. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui, sans lunettes, on a un regard... je porte des lunettes, donc je parle en connaissance de cause. On peut avoir un regard très très bizarre parce qu'on voit rien du tout. Et puis l'idée, c'était un peu de mettre ces personnalités un peu comme s'ils étaient devant un médecin ou s'ils étaient, je dirais, plus l'image d'un appareil de radio, un scanner ou un IRM. Je pense que tout le monde, un jour ou l'autre, passait dans ce genre de petite machine ou de grosse machine. Et puis on se retrouve comme ça, à regarder au-dessus de sa tête, il y a un genre de miroir. Et puis on se pose plein de questions, on se demande qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer dans le quart d'heure qui va suivre? Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer comme nouvelle? Alors, la majorité du temps, on vous annonce une bonne nouvelle. On vous dit, mais c'est pas grave, vous pouvez rentrer chez vous, soyez rassurés. Et puis, de temps en temps, on vous annonce une mauvaise nouvelle. Et ces gens, ils ont un peu ce regard comme ça. L'idée, c'était un peu d'avoir ce regard un peu interrogateur. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ça peut être aussi la joie parce que voilà, on est chacun. Je pense qu'on est tout le monde. Certaines personnes voient le verre à moitié vide, d'autres le verre à moitié plein. Donc, quand on est dans une machine comme ça, on peut être positif et puis on peut être négatif.
Mais malgré le sourire, il reste les yeux, le regard et parfois, sourire ou pas d'ailleurs, ce qui transparaît réellement de la personnalité du sujet photographié, eh bien, ça passe par les yeux, par le regard.
Alors oui, mais dans ce projet, il y a beaucoup de personnalités, vous parlez de personnalités, il y a aussi des personnes pas connues du tout, parce que l'idée c'était aussi de montrer que devant la maladie, on peut être connu, pas connu, riche, pas riche, pauvre, ainsi de suite. On est tous égaux, quand on vous annonce quelque chose, une bonne comme une mauvaise nouvelle, on est tous égaux. Donc il y avait vraiment des gens connus comme des gens pas connus. Évidemment, ce genre de projet, il a fonctionné plus rapidement avec les gens connus amenant les gens connus. Voilà, je ne sais plus votre question, excusez-moi.
Malgré tout, malgré la pose, malgré les sourires, malgré les artifices du visage, reste le regard qui, lui, ne ment pas.
Le regard, il ne ment pas parce que les gens étaient vraiment devant cet objectif qui ressemble un peu à un miroir. Et alors, ils essayent de chercher un petit peu parce que, évidemment, l'objectif, c'est brillant. Donc, les gens, vu que moi, j'étais juste à côté de l'appareil photo et que je ne les regardais pas, que je les laissais faire, que moi, j'appuyais grosso modo quand je trouvais que c'était intéressant, qu'ils étaient prêts. Et les gens essayent de se regarder un petit peu. C'est pour ça un peu qu'il y a des gens qui ont la tête dans les épaules, des gens qui se grandissent. Il y a aussi, les gens s'assoient. Et toutes les personnes se sont assises sur la même valise, donc une petite valise en aluminium, la même hauteur. Tous les cadrages étaient faits de la même manière. Et dans le cadre photographique, un peu comme un cadre de cinéma, un peu comme un plan séquence, les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient dedans, donc mettre les mains, pas les mains, se mettre de côté, se mettre de profil, sourire, pas sourire, mettre la tête, se grandir, chacun était libre de faire ce qu'il voulait. Moi je les rendais simplement attentifs au fait que si on faisait par exemple 4 photos toujours les mêmes, je leur disais simplement voilà, je pense que peut-être qu'on pourrait peut-être faire autre chose, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez.
Ces personnalités-là, donc on rappelle que vous les avez contactées, utilisé les réseaux et certaines ont accepté, d'autres pas. On va dire que c'est du 50-50. Il y a une centaine de personnalités photographiées, il y en a une centaine qui, pour des raisons diverses et variées, n'ont pas pu passer devant votre objectif. Mais quelle était votre motivation profonde à vous, Dominique de Risbourg, pour vous lancer dans ce projet?
Alors je pense que c'est arrivé à un moment, la photographie elle a beaucoup évolué, le métier a beaucoup changé et peut-être que je suis arrivé à un moment où j'avais peut-être un peu plus de temps aussi devant moi. Et puis j'avais envie, j'ai toujours fait des expositions, des travaux de recherche, mais c'était toujours un peu un travail sur la couleur, la lumière, un côté un peu photographique, un peu de la peinture. J'ai peigné des fonds en couleur, j'ai retravaillé les images, j'ai essayé d'amener un côté très esthétisant, peut-être un défaut dû à mon métier de départ. Et là j'avais réellement envie de me mettre un peu en danger, d'aller à l'envers, d'aller à la simplicité, de faire le plus simple possible, de faire le plus simple possible.
Ouais. Ces images-là ont-elles été beaucoup retravaillées par la suite ?
Il n'y a aucune retouche. À part le fait d'additionner les 3 images qui se fait avec un programme, et ça se fait de manière un peu aléatoire. Mais par contre, il n'y a eu aucune retouche. La seule retouche que je me suis permis de faire, c'était évidemment quand une personne arrivait avec un bouton qui n'était pas habituel, je retirais le bouton. Ou bien quelqu'un retirait la paire de lunettes, il y avait la marque de lunettes sur le nez, je retirais ça. Mais il n'y a aucune retouche. Donc les cernes sont là, les rides sont là, il n'y a aucune retouche.
Il n'y a que 2 photographes dans votre livre. Il y a Édouard Curchaud et Chloé Bonnard.
Exactement, oui. Ouais. Alors, Édouard Curchaud...
Est-ce que c'est parce que les photographes que vous avez contactés refusent d'être photographiés? Parce qu'on sait qu'ils n'aiment pas ça, comme vous d'ailleurs. Vous avez fait un autoportrait les yeux fermés à la fin de votre livre. Ou est-ce qu'au fond, vous n'avez pas voulu photographier des photographes?
Alors, c'est pas un autoportrait. Pour la petite histoire, c'est ma femme qui m'a photographié. Okay. Comme ça, elle le saura. Et puis les deux photographes. Alors d'autres photographes, c'est vrai que j'ai pas demandé. J'ai hésité de demander à plusieurs photographes. Après, c'est vrai que c'est un métier un peu d'individualiste. Et puis si on commence à demander à l'un, pourquoi pas à l'autre. Alors les deux photographes qui sont dans le livre, le premier Édouard Curchaud, c'est tout simplement parce que c'est un ami avec qui je travaille souvent dans le même studio. Et puis la deuxième personne, c'est tout simplement parce que c'était mon ancienne assistante et qui est partie à Paris et puis qui est devenue une photographe de grande renommée à Paris, qui commence à faire plein de choses. Et je trouvais amusant de lui demander de revenir et elle a accepté.
Elle fait partie du collectif Les Nanas de Paname.
Exactement, elle a monté tout un business. Alors moi, j'ai pas tout bien compris parce que je suis pas très au fait d'internet, mais elle a monté ça avec une associée et c'est quelque chose qui marche, mais de tonnerre de Dieu à Paris.
Ouais, absolument. Dominique Dorisbourg est notre invité, photographe. Vous l'aurez compris. Je sais pas si vous écoutiez Pink Floyd, vous qui êtes fan de Keith Jarrett, par exemple.
Oui, j'ai écouté. Ouais.
Bon, alors vous savez que Pink Floyd a sorti un nouvel album constitué à partir des chutes de studio de The Division Bell, enregistré en 1994. Voici Louder Than Words et cet extrait donc de The Endless River. Et c'est le seul morceau chanté de ce disque.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, nous sommes RTS Vertigo en un seul mot.
We bitch and we fight, diss each other on sight, but this thing we do, these times again, rain or shine, or storm.
Louder Than Words, extrait donc de The Endless River, constitué à partir des chutes de studio de The Division Bell, enregistré en 1994. C'est le dernier et dernier album de Pink Floyd.
Infotrafic RTS.
Avec la FCR, les professionnels de la carrosserie en Suisse, fcr.ch.
Le traditionnel bouchon sur le contournement de Genève entre Vernier et le tunnel de Vernier, mais cette fois-ci en raison d'un accident en direction de Genève. Et sinon, le trafic est chargé, fortement ralenti entre l'échangeur de Perly et la douane de Bardenay en direction de la France.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Les infos, c'est tout de suite.
L'heure avec Coop Primagusto et la pomme de terre Celtiane.
17h sur la première, voici le journal que vous présente Patrick Lefort. Bonjour Patrick.
Bonjour Pierre-Philippe, bonjour à tous. Le Parlement se prononcera à la fin novembre sur une loi urgente qui interdit Al-Qaïda, l'État islamique et toutes leurs organisations apparentées. Le Conseil fédéral a présenté aujourd'hui ce texte valable 4 ans. Pietro Bugnon, cette procédure accélérée, plutôt rare, vise à combattre un vide juridique à venir.
Le voici Pietro Bugnon.
Les deux textes qui interdisent Al-Qaïda et l'État islamique seront caducs dès l'an prochain, raison pour laquelle le Conseil fédéral a rédigé cette loi urgente qui sera examinée à la fin du mois déjà au Parlement. Si le texte est adopté, seront interdites les activités de ces organisations en Suisse et à l'étranger, mais aussi tout leur soutien en argent, en personnel, la propagande, la récolte de fonds ou le recrutement de nouveaux membres. Ce texte égale l'arsenal juridique du code pénal qui concerne les organisations terroristes, ce qui fait dire aux autorités de poursuite pénale en Suisse qu'il est avant tout symbolique, mais il comble aussi une zone grise, dit le département de la Défense. Par exemple, distribuer des flyers faisant l'apologie du groupe État islamique sera indirectement interdit. La menace État islamique inquiète sous la coupole. La future loi sur le renseignement pourrait elle aussi contenir un article spécifique dédié à ces organisations terroristes. Ses chances sont grandes au Parlement.
Interdire de se dissimuler le visage dans l'espace public, eh bien c'est compatible avec la Constitution suisse. C'est en tout cas l'analyse du Conseil fédéral. Il s'exprime à propos de la modification de la Constitution tessinoise après le vote populaire de septembre 2013. À cette date, les Tessinois avaient accepté une initiative populaire qui visait implicitement le port du voile islamique. Aujourd'hui, le Conseil fédéral juge le texte inopportun, mais demande malgré tout au Parlement de le valider.
Pour la première fois depuis les révélations des LuxLeaks, Jean-Claude Juncker s'est présenté devant la presse ce matin.
Les LuxLeaks, c'est justement cette affaire d'arrangements fiscaux conclue dans le secret entre le Luxembourg et 340 multinationales. Le nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, donc, assume la politique fiscale qu'il a menée en tant que Premier ministre du Grand-Duché. Elle était légale, cette pratique, selon lui, mais Jean-Claude Juncker admet que ces pratiques posent des questions morales.
Tout ce qui a pu être fait correspond aux règles législatives nationales et aux règles internationales qui s'appliquent en la matière. Il est vrai que résulte de l'interaction entre les règles nationales des uns et les règles nationales des autres une situation qui peut conduire à des taux d'imposition faibles. Il est vrai que de cette interaction entre des règles nationales différentes d'un pays à l'autre peuvent résulter des situations d'imposition qui ne correspondent pas à toutes les exigences encadrant généralement la notion et le concept de justice fiscale. Il est vrai que c'est aussi le résultat auquel conduit la logique de la non-harmonisation fiscale en Europe ou d'une harmonisation fiscale insuffisante en Europe.
L'OTAN et l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, confirment à leur tour aujourd'hui l'incursion de troupes russes dans l'Est séparatiste ukrainien.
Le gouvernement de Kiev avait déjà dénoncé ces mouvements de troupes vendredi dernier. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira d'urgence ce soir à la demande des États-Unis. La municipalité de Jérusalem approuve la construction de 200 logements à Jérusalem-Est dans le quartier de colonisation de Ramoth. L'opposition en a fait l'annonce cet après-midi. Elle s'alarme de l'effet d'une telle décision dans le climat de violence actuel. Une bombe a explosé aujourd'hui dans un centre de formation d'enseignants dans le nord-ouest du Nigeria. Il y aurait au moins 10 morts. C'est une étudiante qui l'affirme. Elle ajoute que l'attentat semble avoir été perpétré par deux femmes kamikazes. Avant-hier, c'est un lycée pour garçons qui a été pris pour cible. D'après un nouveau bilan daté aujourd'hui, cette attaque attribuée à Boko Haram a fait 58 morts.
Retour en Suisse, la quarantaine de grévistes à Pavatex, à Fribourg, ne recule pas.
Les employés décident de maintenir leur mouvement en dépit de l'ultimatum de leur direction. L'entreprise menaçait de suspendre les salaires si la grève ne prenait pas fin à 13h. Les grévistes qui vont de toute façon perdre leur travail réclament à Pavatex de reconnaître les syndicats Unia et Sina en tant qu'interlocuteurs pour la négociation d'un plan social. La direction s'y oppose, elle va donc suspendre les salaires. Ce sont les syndicats qui vont combler le manque à gagner, comme l'explique Armand Jacquier du syndicat Unia.
Effectivement, le syndicat a un règlement assez clair des indemnités de grève. C'est ce règlement qui s'applique. Les salariés le connaissaient parfaitement avant de décider la grève.
On peut tenir combien de temps comme ça ?
Le temps nécessaire.
Est-ce que cet ultimatum a érodé la détermination des grévistes ?
Alors, pas du tout. Des peu de discussions que j'ai eues jusqu'à maintenant, j'en ai quand même eu quelques-unes, non, ils sont tous déterminés. Après, on ne peut pas bien imaginer, peut-être que l'un ou l'autre se pose des questions. Il faut voir que déjà depuis deux semaines, ils ont reçu plusieurs documents leur mettant la pression, leur demandant de revenir en arrière, etc. Donc ces documents, ils les connaissent, ils sont un peu blindés.
Armand Jacqui avec Maurice Doucas.
1500 personnes ont manifesté à la mi-journée dans les rues de Genève contre les coupes prévues dans le budget cantonal 2015. C'était la première fois depuis 20 ans que tous les syndicats de la fonction publique étaient réunis. Ils ont dénoncé les multiples réductions de prestations annoncées par le Conseil d'État.
Et nous vivons un moment historique puisque l'histoire de la conquête spatiale est en train de s'écrire à 500 millions de kilomètres de notre planète.
Et oui, Philae, le petit robot de l'Agence spatiale européenne, vient tout juste d'atterrir sur le noyau d'une comète. Donc Philae qui a été largué ce matin par la sonde Rosetta. Il faut compter maintenant encore une quarantaine de minutes pour s'assurer que Philae a pu s'arrimer à la comète grâce à ses harpons.
Oui, tout le monde est en joie, mais là pour l'instant ils ont l'air inquiets de nouveau.
Alors on attendra encore une quarantaine de minutes avant de crier victoire et de savourer le champagne. Un petit mot de tennis encore au Masters de Londres. Le Tchèque Tomáš Berdych s'est imposé cet après-midi 6-3, 6-1 sur le Croate Marin Cilic. Avec cette deuxième défaite en deux matchs, Marin Cilic est d'ores et déjà éliminé des demi-finales du tournoi. Et ce soir, à 21h, Stan Wawrinka affronte ce qu'on appelle, dans le jargon, un épouvantail.
Ouais.
Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic.
La météo,
Émilie Blazer.
Ciel d'abord nuageux demain avec les dernières averses dans les Préalpes et les Alpes sous forme de neige au-dessus de 1500 mètres. Bande de brouillard sur le plateau. L'après-midi passage à un temps assez voire bien ensoleillé dans les Alpes. Faible tendance à la bise sur le plateau. 5 à 7 degrés à l'aube. 10 à 12 l'après-midi. Une accalmie vendredi avec un temps bien ensoleillé. Des passages nuageux en augmentation à partir du Jura. Brouillard ou stratus sur le plateau se dissipant en partie l'après-midi. Sommet vers 800 mètres. Fun dans les vallées alpines. 9 à 14 degrés. Arrivée d'une nouvelle perturbation ce week-end.
La météo avec le salon Planète Santé Live du 13 au 16 novembre à l'EPFL.
Merci Patrick Lefort, on vous retrouve à 17h30 avec j'imagine des nouvelles fraîches de Philae sur cette comète.
Très probablement.
À tout à l'heure.
Vertigo avec World Press Photo et Swiss Press Photo au château de Prangin.
Et oui, c'est Vertigo.
Et oui, et notre invité est Dominique Dorisbourg, photographe, avec ce projet de livre et d'exposition photo intitulé « Tous égaux » au profit de la Fondation pour lutter contre le cancer. Il y a ce livre, ce beau livre, qui réunit une centaine de personnalités qui sont passées devant l'objectif de Dominique Dorisbourg, ainsi que cette exposition. Ça commence vendredi et c'est à la Ferrari Art Gallery au Quai Perdonnet à Vevey.
Vertigo de 16h30 à 18h. Vertigo sur la première.
J'ai une question à vous poser, Dominique Dorisbourg. Qui a dit, au fond, faire des photos, ça sert pas vraiment à grand chose?
J'ai peut-être dit ça moi-même, oui. Je crois. Mais parce que c'est vrai que je pense que...
Replaçons le contexte.
Voilà, mais disons qu'il y a des choses importantes dans la vie. Je pense qu'effectivement, je vais être un peu quelqu'un qui ramasse les poubelles dans les communes est sûrement plus utile qu'un photographe parce que s'il les ramasse pas pendant une semaine, ça crée des gros problèmes. Un photographe qui ne veut pas de photos, ça fait pas de photos. Voilà, ça prolonge un peu la vie des arbres dans les forêts. Bon, maintenant avec Internet, peut-être pas, mais... Je pense qu'on n'a pas un métier comparé à un médecin, comparé à, voilà, à quelqu'un qui ramasse les poubelles dans les rues. C'est pas dévalorisant ce que je veux dire par là, mais c'est plus utile qu'un photographe.
Bon, il y a quand même le photographe de presse qui informe. L'information, c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui. C'est le jeu de la démocratie également.
Alors ça, entièrement d'accord. Ça va peut-être lâcher un peu égoïste en pensant qu'à mon petit univers de photographe. Mais c'est vrai que la presse, c'est important, effectivement. Autant pour moi.
Ouais. Vous êtes aussi assez étonnant parce que alors vous avez plusieurs passions. Vous aimez, bon évidemment, votre travail, c'est la photographie, votre métier. Il y a également cette passion que vous avez pour la matière brute. Et là, on peut de nouveau faire référence à vos photos. Vous aimez poncer, peindre, refaire, reconstruire, démonter, refaire, rénover.
C'est vrai que souvent je fabriquais moi-même mes fonds en tissu, donc j'avais des grands fonds de décors de théâtre que je peignais avec des rouleaux, des éponges, des choses comme ça. Et puis bon là, dans ce travail, le fond il est tout simple, mais par contre j'ai juste amené un petit côté un peu les empreintes que j'ai pris de toutes ces personnalités. On les a donc elles sont prises dans des blocs de mousse qu'on utilise en général pour pouvoir faire des empreintes des semelles orthopédiques.
Oui. Voilà. Et qui conservent l'empreinte du pied.
Voilà.
Sans le problème du plâtre ou voilà, pas de grumeaux, c'est lisse.
Voilà, parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à prendre les empreintes de pied avec Gérard Abbé, je balançais un kilo de farine sur une grande feuille.
Naïf que vous étiez.
Oui, et puis les gens marchaient dedans et je photographiais l'empreinte. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que balader avec de la farine, c'était compliqué. Et c'est Gérard Abbaye qui sortait de chez l'orthopédiste pour pouvoir faire ses semelles. Il m'a dit, mais écoute, j'ai vu ça ce matin, ça serait génial pour toi. Et puis voilà, là j'ai été mis en contact avec les frères Colère à Vevey qui sont orthopédistes pour faire les semelles et puis qui m'ont offert pendant toute la durée du projet ces formes. Et puis ces formes, j'utilise cette forme pour faire un moulage en plâtre. Et donc évidemment, quand le moulage est fait, l'empreinte, elle est perdue. Et puis, ces empreintes en plâtre qui sont uniques, elles sont vendues avec un tirage qui fait à peu près un format de 90/90 aux enchères pendant l'exposition. Et donc uniquement sur le site de la galerie pour cette vente.
Exposition, donc tous ces goûts, je le rappelle, c'est à la galerie Ferrari. Voilà, Ferrari Art Gallery. Voilà, il faut lire en anglais.
Alors, oui, sur la rivière Vaudoise. Si on tape Ferrari, je pense on y arrive facilement.
Oui, en passant pas mal de voitures rouges, j'imagine.
Peut-être rajouter art.
Oui, voilà, c'est ça, faut rajouter art. Encore que même là, vous savez,
c'est vrai.
On pourra avoir des surprises. Alors,
Vevey.
Oui, voilà, Vevey. Voilà, Ferrari, Vevey. Une passion pour le vin également. Vous avez eu une cuvée perso de Petite Arvine.
J'ai pas eu, j'ai toujours.
Vous avez toujours.
Le sixième millésime est en barrique, donc on va attendre un petit peu. Plus un autre millésime avec un vin rouge, avec un ami en Valais, qui me fait le Alexandre Deletra, qui me fait une cuvée un peu spéciale pour moi, avec mon goût. Avec
votre goût à vous. Ouais. Ce lien entre la photographie, le vin, les arts culinaires, voilà, ça fait partie de votre métier aussi. C'est comme ça que vous êtes arrivé dans l'art culinaire, pourrait-on dire, ou au contraire, c'est quelque chose que vous aviez en vous déjà avant?
Disons que de tout temps, j'ai aimé manger, j'aime le vin, les bons vins. Et puis c'est vrai que un jour, je pense que tout le monde rêve d'avoir son propre vin. Et j'ai eu la chance avec un ami œnologue qui m'a proposé qu'on pouvait faire notre vin soi-même. Il suffit de quoi? Il suffit. On achète du raisin, un bon raisin, on le ramène. Cet ami Daniel Dufault, il a une cave, un pressoir, on presse le raisin, on le met dans une barrique.
Vous avez participé à toutes ces étapes-là?
Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir le raisin brut arriver, de le presser et de mettre le jus de raisin qui a juste un goût de raisin, qui a une couleur un peu bizarroïde dans une barrique en chêne. Et puis, une année après, le sortir clair, et le mettre dans une bouteille et puis d'avoir quelque chose qui est tout à fait bien, quoi. Même carrément très bien. Même.
Ça rappelle le développement de la photo, en fait.
Il y a un côté un peu chimique, quoi, effectivement.
Où on a un produit et on va voir ce que ça va rendre dans le laboratoire, d'une certaine façon.
Oui, c'est un peu la même chose. Bon, là, disons que lui maîtrise parfaitement les choses. Donc, la photo... Moi, j'ai jamais aimé le travail de laboratoire. C'était ce côté être dans le noir pendant une journée entière, le côté un peu répétitif. Du moins, pas répétitif, justement, parce que faire un tirage, on n'arrive jamais au même. Ça me rassurait pas vraiment, moi. Je trouve que le numérique, ça a amené quelque chose de... On peut être très créatif, mais on a un côté plus reproductible, où on peut corriger les erreurs sans revenir en arrière.
Vous avez des obsessions esthétiques?
La simplicité. Je pense que j'ai juste envie, alors là, dans ce cas-là, j'ai peut-être pas rendu les gens beaux, mais c'est, les gens sont beaux par eux-mêmes.
Oui.
Mais c'est vrai que j'essaye toujours que la lumière soit la plus belle possible, qu'il y ait le moins de défauts possible. Ouais, je suis un petit peu, je vais avoir des tocs sur je retouche sur les images de mode, mais on retouche beaucoup de choses, quoi.
Vous pratiquez toujours la photographie de mode, Dominique de Risbourg?
Franchement, plus.
Ouais.
Non. Je pense que j'ai fait des photos de mode pendant très longtemps, mais j'ai jamais été un photographe de mode. Alors, il a fallu un certain temps pour que je comprenne et qu'on me fasse comprendre que c'était peut-être pas mon univers et qu'on m'éloigne de cet univers. Donc,
attendez, qu'on vous fasse comprendre. Lorsqu'on fait 15 ans de la photographie de mode, c'est plutôt qu'on est bon dans le domaine, non? Si on a toujours des commandes et si on fait toujours appel à vous.
Oui, mais alors la photo de mode, ça a le mot mode. Donc un jour on est à la mode, un jour on l'est moins.
Ouais.
Et puis comme partout, il y a des changements, il y a des gens qui arrivent. Et quand les nouvelles personnes arrivent, on considère que tout ce qu'il y avait avant, c'était pas bien. Donc on vire tout le monde et puis on recommence. Donc ça fait partie de la règle du jeu. Hein. Donc moi je peux rien dire dans le sens où je pense qu'on fait tous la même chose. Moi j'ai fait la même chose avec certains de mes collaborateurs parce qu'à un moment on arrive au bout d'une histoire et puis ça doit s'arrêter. Donc
et vous avez pris dans ce cycle-là la place de quelqu'un peut-être aussi et quelqu'un prendra votre place.
Je pense oui, il y a un cycle, je pense que comme la vie c'est un grand puzzle, hein, donc à un moment on est là et puis on enlève et puis petit à petit ça se construit.
Mais il y a toujours la photographie dans tout votre parcours alors que vous aviez aussi une passion pour la peinture.
Je suis passionné de peinture mais je suis incapable de peindre. Alors la photo ça avait l'avantage de pouvoir faire des images plus que des photos. Et sans avoir un pinceau ou un crayon. Donc ça permettait, j'utilisais la photo comme un genre de croquis Et puis après, je les retravaillais pour arriver à les amener à ce que moi j'avais dans la tête, avec les couleurs, en rajoutant des traits. C'était peut-être là la différence entre une photo et puis une image. Une photo, c'est peut-être la traduction de la réalité. Et puis l'image, c'est peut-être quand on amène quelque chose de plus dans une photo. C'est peut-être ça la différence.
Ouais. Est-ce que vous avez un iPod ?
Alors j'ai un iPod, oui, j'en ai un.
Ouais. Ouais. Un vieux ?
Alors j'ai un vieux, oui.
Ah, alors, conservez-le.
Je vais le garder, collector.
On va inaugurer avec Mathieu Chevrier une forme de nouvelle rubrique, mort ou pas mort ?
Vertigo, pop culture.
Bonjour Mathieu Chevrier.
Bonjour.
Une nouvelle rubrique. Mort ou pas mort ?
Eh bien, l'iPod, Pierre-Philippe, est-il mort ou n'est-il pas mort ?
Il n'est pas mort.
Eh bien si, il
est
mort.
Mais comment ça ?
Alors non, figurez-vous qu'il reste bien l'iPod Touch, cette pâle copie d'iPhone, ou l'iPod Nano, bientôt détrôné par une montre, mais l'iPod, celui avec qui on emmène 65 jours de musique, eh bien l'iPod... Il est mort, oui.
Celui que je connais, quoi.
Oui, celui que vous connaissez, RIP, l'iPod classique, comme on l'appelle, ou comme Apple l'appelait, le disque dur enrobé d'aluminium laminé ou de plastique blanc avec sa roulette et son petit écran. Celui qui a, à l'époque, enterré le Walkman, celui qui a redoré, que dis-je, platinumisé, diamantisé le blason d'Apple, l'iPod classique est mort.
Bon, alors, y a-t-il de quoi en faire un plat, pour autant ?
Bien oui, puisque sans iPod, pas d'iTunes, on achèterait encore des disques dans des magasins. T'imagines ?
Trop dingue.
Non, disque publié par des immenses manias de la musique. Sans iPod, on n'écouterait pas toute sa musique n'importe où, n'importe quand. L'iPod, il a changé la face de la musique. Il a changé comment on l'achète et comment on la consomme. Il a aussi donné naissance à l'iPhone et au podcast.
Ah bon ?
Le podcast, contraction de iPod et broadcast, diffusion. Ouais. Podcast que nos amis québécois appellent balado-diffusion.
Oui, ils disent comme ça aussi sur France Inter.
Oui, ça, c'est vrai. Oui. Bon, ça a presque le mérite d'être clair. Emporter des morceaux de radio ou d'émissions avec soi. Le podcast fête cette année ses 10 ans. 10 ans que la radio peut se la jouer à la carte ou en téléchargement. 10 ans que la radio se trimballe et se promène partout.
Oui, mais maintenant, Mathieu, c'est l'image qui est reine. La télé est à la demande aussi.
10 ans plus tard. C'est juste. 10 ans plus tard, avec la naissance du net, avec le succès de l'iPod, avec le podcast, tous les spécialistes, surtout ceux qui travaillent l'image, tout le monde était d'accord pour dire la radio est morte, ou était morte. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, ces Nostradamus ont non seulement eu tort, mais aussi... Très tort, figurez-vous. Ça n'était que le début de la renaissance radio. Aujourd'hui, un nouvel âge d'or commence, âge d'or qu'on doit à ceux qui devaient tuer la radio, le net, l'iPod et le fameux podcast.
Alors, expliquez-nous, Mathieu, pourquoi sommes-nous dans un nouvel âge d'or de la radio ?
Eh bien, c'est grâce à l'iPod et au podcast. On peut prendre la radio partout, en petits morceaux avec soi. Grâce à l'internet mobile, on peut y accéder partout, l'écouter, la réécouter, la télécharger. Tout ça devait signifier la mort de la radio. On était censé ne plus l'écouter, vaguement la télécharger occasionnellement, mais surtout aller directement sur nos musiques préférées en faisant l'impasse sur la radio. Eh bien, pas du tout. La radio se porte très bien, contrairement à la presse ou la télé, que le net et l'accès à la demande ont profondément altéré. La radio va bien. Les gens aiment sa compagnie. Ils aiment apprendre en faisant autre chose. Oui, parce que contrairement à la lecture ou à la télé, on peut faire d'autres choses en écoutant la radio.
Et comme conduire, quoi.
Par exemple, oui. C'est donc normal que le nouvel âge d'or de la radio passe par la case voiture. La voiture, c'est le temple de la radio, ouais. Parce qu'on ne regarde pas la télé en voiture, du moins quand on conduit. On ne lit pas quand on conduit, il y a des exceptions, mais quand même. Depuis toujours, la radio est la reine de la voiture, à une exception près que le CD avait volé une certaine place à la radio à l'époque.
Mais bon, le CD est mort, donc...
Oui, voilà. Bah figurez-vous que la voiture, elle, qui est maintenant sur le point d'être connectée au réseau 4G via Internet mobile, ça signifie la mort du CD en voiture, ça c'est une évidence, mais c'est l'occasion rêvée pour la radio de s'écouter à la demande encore plus facilement, surtout ces trajets, de reprendre une émission en cours, d'écouter les précédentes, de zapper à loisir pour trouver la musique qu'on préfère et découvrir. La voiture connectée ouvre des portes inattendues pour la radio, mais préparez-vous. Il y a de nouveaux Nostradamus qui vont venir nous dire que la voiture connectée signifie la mort de la radio, comme l'iPod, le podcast et Internet avant elle. Pourtant, la radio va bien, elle se laisse contrôler par son utilisateur, la radio va bien, elle croule sous les avantages, souplesse, mobilité, ubiquité, multitâche, la radio va bien. Et croyez-moi, avec la voiture connectée, la radio, elle ira encore mieux.
Merci Mathieu.
Vertigo. Sur la première.
Avec Dominique de Risbourg, notre invité photographe. Ce livre, Tous égaux, je le précise, dont nous avons parlé avec vous, Dominique de Risbourg, est disponible chez Payot. Genre, je le dis, c'est uniquement chez Payot parce que le réseau Payot vous a offert la distribution et la mise en place des livres, puisqu'on rappelle que c'est au profit de Fonds d'Action pour lutter contre le cancer. Également cette exposition à la Ferrari Art Gallery de Vevey. On a entendu Mathieu Chevrier là, nous parler de la fin de l'iPod, l'iPod classique, celui qui a remis Apple sur les listes, les bonnes listes et les bonnes feuilles de celles et ceux qui jouent en bourse. Est-ce qu'un jour on va assister à la disparition de l'appareil photo tel qu'on le connaît, c'est-à-dire cet objet un petit peu encombrant avec un objectif, dans la mesure où aujourd'hui on voit bien que nos téléphones font tout ou presque, hein, sauf le café?
Alors c'est déjà fait.
Ouais.
Juste pour une petite anecdote, quand j'ai commencé à faire des photos en numérique, j'avais un appareil photo qui valait 50 000 francs,
ouais,
qui faisait 6 millions de pixels. Maintenant, on a un téléphone portable qui en fait 8, et les images, elles sont pratiquement aussi bonnes, ouais, donc la réponse, elle est là.
Donc à terme, l'appareil photo va disparaître, vous pensez ?
Oui, je pense, franchement oui. Ça va rester, je pense, comme un peu la photo, les tirages noir et blanc, Barrett. Il y a certains collectionneurs, certaines personnes qui vont garder un peu le souvenir du côté un peu traditionnel. Il y aura encore des appareils photo pour certaines choses très particulières, mais la majorité des gens, je pense, feront leurs photos avec un téléphone, avec peut-être une montre, avec, je pense, même dans les lunettes. On peut s'imaginer maintenant qu'avec d'ici peut-être quelques années, avec un objectif dans la branche de lunettes, on pourrait très bien s'imaginer en disant photo et puis que ça fasse la photo. Ouais, ça ne me paraît pas inconcevable.
Mais ça va être infernal. Il y a déjà un milliard de photos par jour qui sont prises, vous vous rendez compte?
Ben, c'est déjà comme ça maintenant. Maintenant, le problème, c'est que tout le monde est photographe.
Ouais.
Et on fait appel à des photographes professionnels uniquement quand on cherche, quand l'amateur, entre parenthèses, vous,
ouais,
moi, avec mon petit téléphone, on ne sait pas faire. Donc à ce moment-là, on appelle le photographe pour faire certaines choses un peu compliquées. Mais c'est déjà maintenant, avant, pour pouvoir être photographe professionnel, il fallait diffuser ses images dans les banques d'images, il fallait, ouais, il y avait tout un réseau, il n'y avait que pour les journaux, il fallait connaître beaucoup de gens pour vendre des images. Maintenant, n'importe qui fait une photo, la met sur le web, et puis si la photo a un intérêt rédactionnel, cette photo peut être achetée. On peut s'imaginer que vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous faites une photo avec un téléphone portable, cette photo, elle a un sens d'information extraordinaire, cette photo peut être achetée puis faire la couverture d'un magazine.
Alors, est-ce que le photographe aussi, son métier va changer? C'est-à-dire que, puisque tout le monde est photographe et que tout le monde peut tout photographier ou presque, votre champ d'activité va-t-il se réduire petit à petit sur certains sujets ou certaines thématiques?
Mais c'est déjà fait. Franchement, c'est déjà fait. Je pense que le photographe, maintenant, on doit faire beaucoup plus de choses. On essaye de... avant, on faisait que la photo. Maintenant, il y avait le photographe, il y avait les laboratoires, il y avait les gens qui faisaient les tirages, il y avait les gens qui faisaient la maquette dans les magazines, il y avait les gens qui faisaient la retouche. Maintenant, grosso modo, un photographe, il n'y a plus de film, donc le photographe fait des photos numériques, il retouche lui-même ses photos, il fait la maquette lui-même de son livre, il peut même les tirages, il peut les faire lui-même. Donc, un métier où il y a simplement 10 ans, où il y avait à peu près 10 intervenants du moment où on faisait la photo au moment où on pouvait avoir un objet imprimé à avoir dans les mains, maintenant il y a une seule personne qui le fait.
Alors quelle est la condition de la survie du photographe, employant ce mot fort, pour qu'il continue son métier?
Eh ben, je pense d'amener une image que personne ne peut faire. Avoir un style peut-être différent, avoir une écriture photographique qui puisse intéresser certains médias, certains collectionneurs, par exemple, pour les galeries. Mais le métier, il a vraiment changé, quoi, ça c'est sûr.
Je vous posais cette question-là parce que lorsqu'on va sur votre site, Dominique de Risbourg, on se rend compte que, au fur et à mesure que l'on parcourt l'évolution de votre travail, on sent beaucoup de recherche au fond. Vous cherchez. Alors évidemment, il y a toutes vos photos professionnelles, photographes de mode, clairement identifiées, qui sont, on le comprend bien, faites pour être publiées dans les magazines, voilà, avec cette qualité d'impression indispensable. Et puis il y a toutes vos recherches formelles sur le paysage, sur le ressenti, ce que vous ressentez devant un paysage, de quelle façon on peut le traduire en images, et donc des styles assez différents, assez éclatés finalement.
Mais ça fait partie, c'est peut-être un défaut ou une qualité, c'est que sans être hyperactif, je peux pas m'arrêter de faire des photos, donc je suis toujours en train de faire des recherches. C'est vrai que j'ai plutôt cet état d'esprit de vouloir essayer de comprendre comment ça marche. Donc quand gamin, j'avais une voiture, il fallait fallait que je la démonte pour voir comment ça marchait, sans savoir la remonter évidemment. Et puis j'ai toujours envie d'essayer, donc j'ai envie de tout essayer. C'est ce côté un peu, je suis très très curieux, quoi. J'ai juste envie de je fais une photo avec un téléphone, je peux faire une photo après je vais peut-être la photocopier, je peux tout essayer, quoi. C'est le côté amusant. Je veux dire, photographier toujours la même chose sur le même fond blanc, c'est juste ennuyeux, quoi. C'est comme j'imagine que si vous deviez interviewer toujours la même personne, c'est juste pénible. L'intérêt, c'est que vous avez toujours des gens différents. La photo, c'est qu'il y a toujours des sujets différents. Puis après, la manière de le traiter. C'est vrai que on s'attend d'un photographe commercial à ce qu'on s'imagine. Voilà, ce photographe, on le connaît parce qu'il fait une photo en noir et blanc sur un fond blanc avec un reflet dans les cheveux. Il cadre toujours comme ça, donc on reconnaît l'image. Ouais. Alors moi, on a plus de la peine à me reconnaître parce que j'ai justement pas. Alors, parce que je suis peut-être incapable, tout simplement, j'ai pas de style, j'ai juste envie d'essayer de faire plein de choses différentes, et puis j'espère que j'arrêterai jamais. Là, j'ai dû un peu me contrôler, et puis justement, juste servir.
Pas essayer, quoi.
Non, parce que là, j'ai dû, sur les 100 photos, sur les 100 personnes, avoir une rigueur d'avoir le même cadrage, la même qualité d'image, la même lumière. Il fallait que ça soit toujours pareil, même si à chaque fois, je me disais, ah, mais ça, j'aurais dû faire comme ça la prochaine fois, je pourrais faire comme ça pour améliorer un truc. Et puis, je pouvais pas. Donc, j'ai dû rester sur la même ligne. Et puis, vraiment être un peu comme un photomaton. Les gens, ils étaient un peu comme dans une boîte. Il y avait un fond derrière eux. Il y avait une lumière devant eux. Puis moi, il y avait un appareil photo dans le milieu. Moi, j'étais juste là, derrière l'appareil, coincé entre la boîte à lumière, et j'appuyais quand je pensais que c'était intéressant. Dans ce travail, j'ai juste essayé de trouver les personnes, les convaincre de venir, parce que ça, c'est vrai que c'était pas toujours facile, surtout avec les femmes, qui leur expliquer qu'elles pouvaient venir sans être maquillées, qu'on regarderait les photos, puis que si vraiment il y avait un problème, ça leur plaisait pas, bah, elles pouvaient toujours changer d'avis après, mais il fallait au moins essayer. Donc, et toutes les personnes, toutes ces femmes qui ont essayé, elles ont toutes accepté après de signer cette cession de droit pour pouvoir utiliser les photos, pour pouvoir les vendre, évidemment, quoi, au profit de Fonds d'Action.
Dominique de Risbourg, je sais aussi que vous donnez des cours, des workshops pour tout le monde. Alors, d'un côté, les photographes disent « Ah, mais on ne peut plus bosser parce qu'aujourd'hui, tout le monde est photographe. » Et de l'autre côté, vous enseignez à ces personnes-là qui sont des amateurs à faire de meilleures photos.
Alors, j'enseigne pas. Alors, c'est vrai que c'est un truc qui m'a vraiment passionné.
Vous transmettez, si vous préférez.
Oui, parce que je pense que j'arrive
aussi...
C'est
un enseignement, d'une certaine manière.
J'arrive à un âge où on a peut-être aussi envie de
Quel âge ?
52.
Ouais.
On a envie d'apprendre aux gens des petits trucs. Alors, ces petits workshops, ils sont faits avec très, très peu de gens. Et l'idée, c'est de les adapter à chaque personne. Et donc, de simplement leur montrer, de les laisser faire des photos, de leur laisser faire leurs défauts. Ouais. Et puis après, de leur dire, bah voilà... À mon avis, vous auriez dû faire comme ça et vous auriez peut-être pas raté la photo. Et bon, alors ce qui est amusant, c'est que des fois les gens, il y a rien à dire parce que les photos elles sont parfaites. Alors donc, je vais avoir juste l'humilité de dire, bah écoutez, je peux rien vous dire, c'est nickel. Donc, je suis presque jaloux que vous ayez fait cette photo. J'aurais voulu la faire.
Ouais. Dominique de Risbourg, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle votre projet Tous Égaux, livre disponible dans les librairies Payot et cette exposition à la Ferrari Art Gallery à partir de vendredi à Vevey. Les photos seront en vente au profit de Fonds d'Action contre le cancer. Merci d'être venu nous voir. On va se quitter avec Charlie Winston. C'est un extrait de son nouvel album. Voici Lately. Merci.
Vertigo sur la première.
Outside. how they love to take control till something isn't working. I see them losing their minds, trying to keep their pride. As they race for the first position, give an inch and you take a mile. Couldn't you have waited?
Le débat a déjà commencé entre nos critiques, c'est vous dire si ça va être chaud. C'était Charlie Winston avec Lately, 17h30 dans Vertigo. Voici le rappel des titres avec Patrick Lefort.
L'agence spatiale européenne exulte. Son robot Philae 7 a rimé avec succès à la comète Chury. Le robot avait été largué 7 heures plus tôt par la sonde Rosetta. C'est une première dans l'histoire spatiale. Une opération à suivre sur rts.ch. Après les autorités ukrainiennes autour de l'OTAN et de l'OSCE d'affirmer que des troupes russes sont entrées sur territoire ukrainien, des affirmations que Moscou dit sans fondement, le Conseil de sécurité de l'ONU se penchera sur l'Ukraine une nouvelle fois en urgence ce soir. Les élèves turcoviens n'apprendront plus le français à l'école primaire dès la rentrée 2017. Le Conseil d'État met à exécution une décision du Grand Conseil votée en août dernier. D'après les autorités, l'enseignement du français n'en pâtira pas. Il y aura plus d'heures de français au secondaire. Al-Qaïda, l'État islamique et toutes les organisations apparentées devraient être interdites pour 4 années supplémentaires en Suisse. Le Conseil fédéral soumettra un projet de loi urgente au Parlement à la prochaine session. Le maire de Baden, Gary Müller, a reçu ce matin un courrier suspect qui contenait une poudre inconnue. Les pompiers et la police ont dû intervenir. Un laboratoire est chargé d'analyser cette substance. Gary Müller, qui a repris ses fonctions lundi, quelques mois après l'affaire des selfies nus. Un travailleur social est condamné à 9 ans et demi de prison par la justice bernoise pour des abus sexuels commis sur 21 garçons. Le tribunal suspend toutefois cette peine au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Masters de tennis de Londres, le tchèque Tomas Berdić bat facilement le croate Marin Cilic, 6-3-6-1. Ce soir à 21h, Stan Wawrinka défie Novak Djokovic. En football, l'italien Fabio Capello ne perçoit plus de salaire. Le sélectionneur de l'équipe de Russie doit recevoir environ 7 millions d'euros par an. Mais un membre du comité exécutif admet que la fédération russe n'a pas d'argent pour payer un tel salaire. Météo demain, averse puis soleil dans les Alpes, brouillard sur le plateau, maximum 10 à 12 degrés.
Et dans Forum à 18h, on va entendre le nouveau directeur de la FINMA.
Le britannique Mark Branson nous accorde pour la première fois une interview. Cet ancien d'UBS s'exprimera notamment sur la lourde amende infligée à son ancien employeur et à 4 autres banques pour des manipulations des taux de change.
Merci beaucoup Patrick Lefort, belle soirée à vous, à demain.
Bonne soirée, à demain.
Vertigo, go!
Vertigo Go, Vertigo va au cinéma. Nous accueillons autour de cette table nos critiques. On commence par Raphaël Boucher, bonjour.
Bonjour Pierre-Philippe.
On vous entend sur Espace 2 et dans Brasil.
De temps en temps, oui.
De temps en temps, absolument. Non, mais je tenais à le dire quand même, Brasil. Donc merci. L'émission cinéma de Couleur 3 de notre camarade Philippe Conjusti. Également avec nous, Antoine Duplan du Temps. Bonjour Antoine.
Bonjour Pierre-Philippe.
Tout va bien?
Très bien.
Bah oui, un nouveau Pink Floyd, alors c'est la fête.
Un nouveau Pink Floyd, c'est la fête.
On parle cinéma, les gars.
À quand un Zappa posthume? Alors là, c'est
apothéose. Il y en a un tous les mois, à peu près.
C'est ça.
Il enregistre 6 millions d'heures de bombes.
Raphaël Wolf, bonjour.
Bonjour.
Que l'on entend dans cette émission et aussi ailleurs, sur les antennes de RTS. Mais si, elle est un petit peu la puce.
Non.
Dans un critique sur Espace 2.
Ah. Voilà,
l'autopromotion, mais c'est terrible.
Oui, bah écoutez, si on ne le fait pas, qui va le faire? Je vous pose la question.
Le cinéma dans Vertigo.
4 films, voire 5 même, à l'affiche cette semaine. Une nouvelle amie, Love is Strange, Vie sauvage, Serena et Vic et Flo ont vu un ours. On va commencer avec ce film du réalisateur français François Ozon que nous avons reçu dans cette émission. C'était lundi. Ce film s'appelle Une nouvelle amie.
T'as rencontré quelqu'un?
Une femme, très douce. Elle me comprend, sans me juger.
T'es malade, David.
Je peux pas passer à côté de ma vie, Claire. C'est en moi.
Ça pourra pas durer, David. C'est une folie.
Je sais.
T'es un pervers. Il faut arrêter.
François Ozon, Romain Duris, Anaïs de Moustier et Raphaël Persona pour ce film qui met en scène donc David, incarné par Romain Duris. À la suite du décès de sa femme, il s'habille avec les vêtements de celle-ci, élève sa fille de 6 mois seule et va nouer une relation trouble avec la meilleure amie de sa femme, incarnée par Anaïs de Moustier, après que celle-ci l'aura surpris habillée en femme. Raphaël Wolf.
Ça a l'air nébuleux tout ça.
Non, pas du tout.
Non, puis ça va déplaire complètement aux adeptes du mariage pour tous, puisqu'évidemment, François Ozon rebondit un petit peu là-dessus.
Mais ceux qui sont contre le mariage pour tous.
Contre les détracteurs du mariage pour tous, la manifestation pour tous, puisque voilà, c'est quand même un tout petit peu le sujet du film, même si de nouveau, François Ozon joue pas au pamphlet ou à la provocation par rapport à ce sujet. Moi, j'ai trouvé d'emblée eu un certain plaisir à voir Romain Duris se déguiser en femme. Il y a quelque chose d'assez savoureux, d'assez trouble. On n'est pas à la fois un peu dans la comédie et dans le drame quand même. On est sur des tonalités qui évitent évidemment le côté un peu cage aux folles. Et tout de suite, au bout de 30 minutes, c'est assez séduisant quand même dans le film. Ça m'a happé là-dedans de façon assez agréable. Et puis alors, je trouve qu'il y a une organisation d'un quatuor, puisque on parle de ces deux personnages, donc Claire et David, mais assez vite, il y a quand même deux personnages extérieurs qui s'invitent dans tout ça. Donc la femme décédée de David et l'ancienne meilleure amie de Claire, qui en fait est la base du récit, puisque c'est sa mort qui fait que justement David se déguise en femme et puis que Claire trouve une certaine relation aussi avec cette femme fantasmée. Il y a quelque chose de l'ordre du rituel un peu nécrophile, un petit peu comme dans Vertigo justement d'Alfred Hitchcock. On va essayer de retrouver un rituel pour empêcher un deuil qui est un peu impossible à faire. Et puis il y a un quatrième personnage qui est ce mari de Claire, qui est un peu palo, il n'existe pas vraiment, c'est Raphaël Persona. Et ce quatuor crée quelque chose d'assez sympathique dans les possibilités qui sont offertes au récit. Moi, j'ai trouvé ça vraiment assez savoureux. Puis à un moment, évidemment, Claire aussi fantasme une relation homosexuelle entre son mari et David, alors qu'on ne sait pas très bien si ça existe ou pas. Et puis elle-même est confrontée à son propre désir par rapport à cette...
C'est
fantasme lesbien. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tout ça est ouvert, j'ai l'impression que François Ozon ne se laisse pas complètement dépasser par son récit. C'est la petite limite que je pose au film. On a l'impression qu'il maîtrise trop tout et du coup il y a de temps en temps un petit modèle un peu trop programmé qui se met en place et j'aurais préféré quelquefois que le film perd un peu les pédales, si je peux dire comme ça. Mais je trouve que c'est un très beau plaisir de cinéma.
Raphaël Boucher.
C'est vrai, savoureux, c'est le mot. Peut-être aussi un petit peu dérangeant par moment, puisqu'il y a effectivement toutes les possibilités qui sont offertes à ce quatuor. Et c'est vrai que François Ozon livre peut-être son film le plus politique, puisqu'on ne peut pas s'empêcher de penser à tous les débats qui ont eu lieu récemment. Et en même temps, ça ne l'est pas du tout de manière ostensible, ou ce n'est pas du tout lourdingue ou martelé comme tel. Il questionne la norme, il réinvente la norme constamment, sans jamais faire un film plombant, un film sociologique. Ça, moi, j'ai effectivement beaucoup apprécié. Après, je le trouve un tout petit peu absent de son film, alors qu'il était absolument fasciné par son actrice. Vous vous souvenez de son film sur la
cette jeune fille, Jenny Jolie,
voilà, qui se prostituait sans raison apparente. En tout cas, là, on le sentait très fasciné par son actrice. Et là, il m'a manqué une forme de passion, d'incandescence amoureuse qui aurait pu donner un petit peu plus de souffle. Je me suis un tout petit peu ennuyée, c'est vrai, mais ça reste un très très beau, très bien, un film très très bien mené, où on a des personnages qui tombe amoureux sans vraiment savoir dans quoi ils s'aventurent, nous spectateurs non plus d'ailleurs. Et puis, est-ce qu'ils sont vraiment amoureux? Est-ce qu'ils sont conscients de l'être? De quoi ils sont amoureux, dans le fond? Est-ce qu'ils aiment la transformation de l'autre? Puisqu'on a deux personnages qui se transforment. On a évidemment Romain Duris au sens vraiment propre. Et puis, cette jeune fille, Anaïs de Moustier, qui est un petit peu...
Il y a une vraie trajectoire qui est
assez passionnante tout au long du film, avec voilà cette fille ordinaire qui va découvrir son désir et puis cet homme qui va assumer son plaisir. Ça donne quelque chose de beau. Et puis le fait que voilà, François Ozon, c'est toujours la question très complexe du désir. Chaque personnage a toujours quelque chose de caché qui relève toujours du désir sexuel. Il fait monter la tension dramatique et puis il la désamorce complètement au moment où on s'y attend le moins, donc tout ça est très bien mené. Mais voilà, mais il me manque quelque chose. Il me manque l'étincelle François Ozon.
Voilà, donc pour une nouvelle amie de François Ozon avec Romain Duris, Anaïs de Moustier, Isilde de Bescot et Raphaël Persona. L'autre film dont nous allons parler s'appelle Love is Strange.
Copain.
My friend is here. We need to work on a school presentation and there's nowhere else for us to.
Oh.
That's so gay.
It doesn't mean homosexual, Uncle Ben. It just means stupid.
Hey, can I have some private time, please?
When you live with people,
you know them better than you care to.
Après 39 ans de vie commune, deux hommes, George et Ben, décident de se marier. Et au retour de leur voyage de noces, patatras, George se fait virer de sa boîte. Et du jour au lendemain, donc, ils ne peuvent plus assumer le prêt de leur appartement new-yorkais. Ça coûte très cher, hein, New York. Ils sont contraints de vendre, ils doivent déménager, ils doivent compter sur l'aide de leur famille et de leurs amis pour vivre, tout simplement. Ils vont se retrouver éloignés. Et que va-t-il se passer?
Bon, sa boîte, c'est quand même l'église catholique, hein, il faut préciser. Ça peut aider à comprendre.
Je voulais vous laisser le dire, Antoine Duplan.
Bah, écoutez, vous racontez très bien le début, et ce début pose un petit problème. Dans un premier temps, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un film qui montre une injustice? C'est un film de combat, où on va montrer qui veut montrer que la situation des couples gays n'est pas encore établie. Puis dans un second temps, quand ils cherchent un appartement, je me suis dit, mais est-ce qu'on est dans le drame bourgeois,
immobilier,
c'est pas facile de trouver un appartement à Lausanne, à Genève, comme on le sait, mais à New York aussi. Et puis je suis parti un tout petit peu en porte-à-faux, me disant, mais est-ce que je vais pas, est-ce que je suis à la bonne place, je suis dans le bon film? Et tout à coup, on se rend compte qu'en film, c'est un film extraordinaire, c'est un grand film d'amour, quoi. C'est une magnifique histoire d'amour qui se trouve se passer entre deux personnages homosexuels entre 60 et 70 ans.
Et donc, deux grands acteurs aussi, hein, Alfred Molina.
C'est formidable. Rien, hein, ouais. Les deux sont exceptionnels et très émouvants. Et je trouve ça absolument extraordinaire. D'abord, je pense que ça fait beaucoup plus justement que tous les films militants. Ça montre que quand on aime, ben on aime. Et puis après, peu importe la couleur, le sexe, et la taille. Et ça m'a énormément plu parce que après un début un petit peu dubitatif, je me suis complètement laissé aller à ce film. J'ai effectivement trouvé formidable la prestation des acteurs et la façon qu'a Ira Sachs de filmer. C'est d'une finesse, c'est d'une élégance absolue. Comment il articule la difficulté économique avec la complexité sentimentale, comment est-ce qu'il y a beaucoup de tension, mais en même temps il y a toujours des moments de détente, des moments presque de rêverie. Il y a deux, trois plan sur la ville qui sont comme des interludes un peu apaisants. Il y a une montrée, un truc très psychologique, c'est montrer comment est-ce qu'on peut se sentir de trop, comment on a invité chez des amis, comment tout à coup on a l'impression de ne plus exister, d'être un poids, et puis la séparation très douloureuse entre ces deux êtres. Et puis au final, il y a une image extrêmement simple, c'est un adolescent et son ami qui font du skate au crépuscule, ils roulent vers le soleil couchant. Et en même temps, c'est une image incroyablement tournée kitch. Vers l'avenir.
Non.
Kitsch. C'est kitsch. Oui, c'est kitsch. Vous avez raison, Raval, c'est kitsch. Mais en même temps, c'est... on évite toujours le mélodrame. Et cette fuite vers le crépuscule, en fait, paradoxalement, je trouve que c'est une extraordinaire ouverture vers l'avenir. Et Ben et George, nos deux héros, ont souffert. Il y en a un qui n'est plus. Et en même temps, la vie continue d'une autre forme.
Raphaël Boucher.
je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aurais coupé cette scène du crépuscule, là, que vous analysez fort bien.
On serait resté sur les deux vieux, on dit bon, mais c'est fini, il y a une histoire d'amour qui est terminée.
Non, dites pas plus, parce que sinon on va révéler la fin.
Attendez, c'est pas très important. On suit un petit hétéro de 15 ans en skate, et tout à coup c'est autre chose. Il y a une transmission, il y a une leçon de vie.
Je trouve le film un tout petit peu boursouflé à ce niveau-là. Il me semble qu'il accumule un peu trop les rebondissements. Mais comme vous, j'ai assez marché. Déjà depuis le tout début, parce que la scène d'ouverture avec ces deux corps nus dans un lit, après il y en a un qui se lève, qui va prendre sa douche, il est déjà fatigué, enfin on est complètement dans l'image, mais anti-glamour qu'on peut avoir parfois dans les films liés au couple gay, anti-romantique.
Ils ont 18 ans, ils font de la musculation, quoi.
Voilà, gros, exactement, ça. Et puis ils sont aussi très beaux, là c'est pas vraiment le cas, c'est anti-romantique, à souhait, ils sont rattrapés, c'est leur mariage certes, mais ils sont assez vite rattrapés par le quotidien et par leurs problèmes, et puis aussi la manière de montrer ou de ne pas montrer New York, qui fait rêver beaucoup de gens souhaiteraient y habiter. Et puis là, on évite absolument le cliché, l'image d'Épinal new-yorkais, synonyme de liberté. D'ailleurs, non, là, on voit très peu la ville. Sauf quand le peintre, effectivement, enfin, le membre du couple, Ben. Voilà, qui peint sur le toit. Et là, effectivement, il y a comme un souffle, une sorte de respiration. Sinon, on ne voit quasiment pas la ville. Et au contraire, le film donne constamment un sentiment d'être tout le temps enfermé. Et ça c'est très...
On la voit, la ville, mais jamais sous forme de cliché. Hein. C'est des endroits... sans gras, mais des endroits méconnus.
Dans la première partie du film, on ne la voit quasiment pas, on voit que l'intérieur des appartements.
Oui, c'est vrai, mais il y a quand même, on les voit dans la rue au début, mais c'est pas, ils ne sont pas sur une artère célèbre de New York, ils sont dans un coin de ville comme ça. Et je crois que ça nous rapproche encore des personnages, parce que c'est jamais magnifié, ils ne vivent pas dans un loft glorieux, et de moins en moins plus le film avance.
Bon, au début du film, ils ont quand même un appartement qui est assez beau, qui est assez beau.
Mais ils n'en tirent que 17 000 dollars quand ils le vendent.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'après,
on se déplace. C'est peut-être un petit deux pièces, pas si grand qu'il n'y paraît. Hein,
oh non, quand même, la caméra a le temps de se balader un tout petit peu à l'intérieur.
17 000 dollars à New York, mon ami.
Ça serait dommage. En tout cas, s'ils commencent sur un deux pièces, puis qu'après, ils râlent parce qu'ils ont un peu plus grand finalement. Non, mais je crois que. Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai dû complètement passer à côté de ce film. Parce que je vois très bien toutes les qualités. J'adore ces deux comédiens, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup le début. Je trouve que le film est tout en sourdine. Donc, effectivement, beaucoup de gens me disent que le film est extrêmement sensible et subtil, et moi j'avoue qu'il est il est tellement en sourdine pendant tout le long que ça n'a peut-être pas totalement résonné à mes oreilles. Et je trouve que, alors, à force d'accumuler toutes les thématiques, justement le mariage homosexuel, les problématiques de logement, l'hypocrisie un peu des faux amis qui, au début du film, sont tout contents que ces deux amis gays se marient, puis alors une fois qu'ils les accueillent à la maison, par contre, c'est une autre paire de manches, avec en plus un adolescent qui doit se situer un peu au niveau de sa sexualité, ça fait beaucoup de couches qui s'empilent, et au bout d'un moment, je ne savais plus très bien, effectivement, à quoi me raccrocher, d'autant plus qu'il y a une piste narrative qui est adoptée par le film, que je respecte parce que c'est la volonté du cinéaste, mais en gros c'est de séparer ce couple au bout de 20 ou 30 minutes, puisque chacun va habiter dans un appartement différent, et jusqu'à peu près à la fin du film on va plus tellement les voir ensemble. Et j'aurais bien aimé, c'est peut-être plus classique effectivement, mais j'aurais bien aimé avoir un peu plus de scènes où j'aurais pu vivre avec eux la problématique de la séparation, donc de temps en temps se retrouver à des cafés comme des adolescents qui peuvent pas habiter ensemble, de sentir ça un petit peu plus pour être plus avec eux. Mais bon, c'est très personnel et j'ai peut-être besoin d'un film plus classique et plus narratif, alors que le récit se joue justement plutôt sur les creux, et je reconnais que c'est tout à fait bien mené dans le film, mais alors ça m'a un tout petit peu ennuyé.
Mais la scène de café précisément,
elle est
tellement magnifique, tellement bouleversante.
Mais justement, j'en aurais voulu plus.
Parce qu'on a qu'une ou deux qu'on est aussi bouleversés. Si on les avait vus toutes les 10 minutes se retrouver puis pleurer un peu, au moins là ils se retrouvent deux fois, c'est très fort. Et quand vous dites les faux amis, moi je pense que ce sont de vrais amis, mais ça nous montre aussi nos limites. Accueillir un vieil oncle, c'est bien sympa, mais au bout de quelques temps qu'on a envie de faire quelque chose, qu'il a envie de bavarder, on n'en peut plus.
C'est vrai qu'il y a un personnage secondaire qui est joué par Marisa Tomei, qui est écrivain, qui est un peu en mal d'inspiration. Elle est à sa machine à écrire, enfin pardon, son ordinateur. Elle n'en peut plus de ce vieux. Elle n'en peut plus de ce vieux qui lui tient la jambe, quoi. Et vraiment, là, il y a quelque chose.
Qui est gentil, qui a envie de parler, qui a envie de communiquer.
C'est ça. Il y a quelque chose de très très juste dans l'écriture des dialogues, il me semble.
Love is Strange, film d'Ira Sachs avec Alfred Molina et John Lithgow. Voici Vie sauvage de Cédric Kahn.
Ça n'est que ça! Vous êtes mes enfants! Vous êtes mes fils! Venez! Je suis votre père!
On n'a plus rien, les enfants. Juste les amis, le ciel, la providence. Maintenant, on est les vrais indiens.
Tout marche en rond dans la nature.
Vous voyez quelque chose de carré ici? Parce que tout est rond, tout est fluide. C'est l'homme blanc qui a inventé le carré.
L'histoire vraie de Michel Fortin qui, pendant 11 ans avec ses enfants, soustrait à la garde de leur mère, réussira à disparaître des radars afin de les élever loin de la société de consommation. À l'affiche de ce film de Cédric Kahn, Vie sauvage, on retrouve Mathieu Kassovitz et Céline Salette, entre autres Raphaël Boucher.
Et puis un quatuor de jeunes garçons aussi qui est
excellent,
assez époustouflant.
Et on ne retient pas les noms, qui jouent, interprètent le rôle des enfants à différents âges.
Voilà, les enfants petits, vers 7-8 ans, et puis après on va les retrouver adolescents, puisque quand même Cédric Kahn a l'ambition de raconter 11 ans. Enfin, il y réussit à mon avis. Moi j'aime énormément ce film. J'aime vraiment énormément ce film. Déjà, on a avec François Ozon quelqu'un qui avait bâti un film sur une absence, sur une morte. Et là, c'est aussi un film qui est bâti sur une absence, sur la mère absente. Et je trouve que là, il rend ce personnage avec mille fois plus d'intensité par la force d'incarnation de Céline Salette aussi, qui a des scènes extrêmement fortes dans le film, par sa manière de la filmer, souvent caméra portée, puisque Cédric Kahn filme les scènes de crise en caméra portée. Eh bien, ça fait que nous, spectateurs, même si elle est absente, elle revient à la fin, mais pendant toute la cavale de 11 ans, dans le fond, eh bien, la mère n'est pas là. Eh bien, on ne l'oublie jamais. Il n'y a pas une seconde dans le film où, en tant que spectateur, on ne pense pas à cette mère absente. Enfin, en tout cas, ça a été mon expérience de spectatrice. Je trouve aussi que c'est un très beau film qui est tiraillé entre plusieurs forces, plusieurs énergies. On a effectivement cette manière de tourner caméra portée et puis des scènes beaucoup plus posées. J'ai adoré le côté très très absolu de ce père qui a une soif de liberté, qui est en même temps complètement borné. On l'admire, on le déteste en même temps. En même temps, on pense à moi. Il m'a fait penser à Sandrine Bonheur dans Antoine et Loi de d'Agnès Verda. Ouais. Il a cette espèce d'insolence comme ça. En même temps, dans les scènes qui sont plus posées, on pense beaucoup à Terrence Malick et puis son lien à la nature. Il y a quelque chose de très beau. C'est ce lien entre ces moments de plénitude et puis ces moments beaucoup plus heurtés, comme ça, que je trouve absolument magnifique.
Raphaël Wolf.
Moi, j'aime beaucoup aussi, mais alors, d'abord, commencer parce que j'ai... Non, mais je vais revenir sur le personnage de la mère parce qu'en fait, c'est mon vrai problème dans le film et plus tard. Non, moi, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est le côté brut de décoffrage aussi, un tout petit peu du film. C'est-à-dire que Cédric Kahn, déjà, dans sa personnalité de cinéaste et d'homme, est assez cash quelque part, et je trouve que le film l'est aussi. Oui. Et Mathieu Kassovitz, dont il faut rappeler définitivement que c'est un acteur extraordinaire. On va le voir bientôt dans un autre film qui s'appelle Un illustre inconnu. Ouais. C'est complètement aux antipodes et j'aimerais qu'il fasse un maximum de films en tant qu'acteur et un petit peu moins en tant que réalisateur. Ça me plairait bien. Il est impressionnant. Il emmène le film comme ses enfants et le spectateur avec lui dans une énergie qui est absolument mais ravageuse. Et d'abord, on goûte finalement à cette utopie rousseauiste avec lui, avec ses enfants qui sont en bas âge, et on a l'impression effectivement de goûter à cette nature nimbée de soleil. Tout est assez beau, tout est assez joli. Et ce qui est assez fort, je trouve, de la part de Cédric Kahn, c'est de pas tomber dans le panneau lui-même. C'est-à-dire qu'assez vite, il confronte dans la deuxième partie du film la liberté voulue ou souhaitée du père à la liberté nouvelle des adolescents qui deviennent adultes, qui veulent aussi eux s'émanciper.
Décider.
Et là, ça crée une nouvelle dynamique dans le film que je trouve assez fascinante. Par contre, alors j'avoue que j'ai, contrairement à Raphaël, j'ai complètement oublié la mère. Je sais pas pourquoi, peut-être je n'en suis pas moi-même, voilà, mais là j'ai eu de la peine à me raccrocher à cette figure-là, et je trouve que le film questionne beaucoup plus effectivement la figure du père, et d'ailleurs les fils rejettent en fait cette mère de façon assez violente jusqu'à la fin du film, et du coup ça m'a empêché finalement d'être en sympathie aussi avec elle, d'autant plus qu'au début du film elle est montrée comme une post-baba-cool qui finalement goûte à cette vie nouvelle un peu hors des sentiers battus, puis assez vite on nous la montre comme rentrer dans les rangs, en avoir un peu marre, on peut le comprendre, mais elles sont bourgeoises finalement, et du coup moi je la juge un tout petit peu, j'avoue, même si le film le fait pas, mais moi j'ai eu un petit jugement sur son personnage. Je me dis que c'est elle qui a renoncé, et du coup je me sens proche des enfants. J'ai eu du mal à accrocher à ce personnage, j'avoue.
Antoine Duplan, alors, votre avis sur Vie Sauvage.
Moi, je ne juge pas la mère. Je trouve au contraire que c'est la grande force du film, c'est de ne jamais juger les personnages. Dans un premier temps, la première scène est très forte.
Vous pouvez la raconter, Antoine. D'habitude, vous racontez
Raphaël,
la
fin. Non, moi, je raconte ce que je veux dans les films. Je fais pas la promotion, je fais de la critique. Je le redis. On est dans la campagne, un jour d'hiver, et de la boue partout. Et très honnêtement, on a envie d'aller en ville.
Exactement.
Au chaud. Avec les pieds au sec, et au chaud. Voit cette femme qui a un look échevelé livide avec des grandes dreadlocks. Elle chope ses trois enfants, elle part en courant dès que l'homme est parti. Et je la comprends, je comprends complètement qu'il y a des moments qu'on vit dans une caravane, on tasse les uns sur les autres dans la boue, on a envie d'autre chose. Et après, la force, c'est effectivement de se concentrer sur le père et de retourner notre premier jugement en disant, c'est vrai que la nature, c'est beau. C'est vrai qu'on peut vivre en harmonie. C'est vrai qu'il y a des animaux. C'est vrai qu'on peut prendre un scorpion sans être mordu. Et tout ça, je trouve qu'il nous fait très, très bien passer. Et jusqu'au moment où on comprend non seulement les enfants arrivent à l'adolescence, révoltent contre le père, mais l'utopie a ses limites. Il y a un moment, il y a des échauffourées avec des punks qui se disputent un squat. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à vivre complètement hors du système. Il y a un moment, on se retrouve confronté. Donc tout ça, c'est un récit extrêmement fluide, je trouve, qui bute sur des récifs naturels et qu'on retrouve la mère à la fin. Effectivement, c'est une figure pathétique parce qu'elle a souffert pendant 11 ans. Et moi, je suis pas un très grand fan de Céline Salen, mais ça, c'est un autre débat. Mais je comprenais aussi bien sa douleur à la fin que je comprenais sa colère au début. Donc, je trouve qu'il fait un sans faux sur l'étude des personnages et il nous laisse juger dès l'instant où les gendarmes finissent par retrouver le père. Le nombre de gendarmes qui arrivent, je sais pas combien ils sont, 10, 15.
Pas de 15 heures.
Et là, on se dit, est-ce que c'est ça un bandit, quoi? Donc, finalement, simplement en montrant en fait que là, la maréchaussée, elle a envoyé des forces importantes pour attraper le rebelle, le voleur d'enfants, l'homme qui se prend pour un indien,
qui fait du fromage de chèvre, quoi.
Qui fait du fromage de chèvre, voilà, c'est ça. Ouais. il fait du fromage de chèvre. Et là, ça nous permet aussi de nous resituer en disant, est-ce que cette société qu'il a fui, elle est pas quand même un peu malade?
Mais est-ce que c'est pas ça une des forces du film, justement? C'est qu'à un moment donné, de se dire, ah, mais oui, on peut se mettre de l'argile sur une blessure, sur une entorse et s'asseoir. Enfin, non, mais il y a un côté enfance, rappel de l'enfance. Souvenons-nous.
Mais bien sûr, Antoine, c'est formidable de pêcher des truites au bord de l'eau. Et il y a un jour où il se met à pleuvoir fort, et on le voit d'ailleurs, il y a un moment, il y a un orage, et puis la bâche, elle prend l'eau. Là, on a
carrément
rentré à la maison.
De nouveau, ça, c'est la partie très bien montrée dans la première moitié du film. Mais après, effectivement, quand on devient adolescent, qu'on a envie de tomber amoureux, et que finalement, on a envie un petit peu de sortir, voilà, de séduire la société, une femme, n'importe quoi, bah là, ça pose problème. Et c'est très intelligemment montré, vraiment.
On rappelle que c'est adapté du livre écrit par l'homme incarné par Mathieu Kassovitz dans le film, qui s'appelait Michel Fortin. Donc toute cette histoire, je le rappelle, est vraie. On va terminer avec Serena, film de Suzanne Beer avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper.
Je voulais juste vous dire bonjour.
Bonjour.
George Pemberton.
Serena Shaw.
Je crois qu'on devrait se marier.
Tu as trouvé une femme ou une associée?
Les deux.
On s'était promis de toujours tout se dire.
Je voulais pas te faire peur.
Je ne suis pas ce genre de femme.
Oublions tout, ne pensons qu'à nous deux.
Je fais tout ça pour nous, George.
Pendant la Grande Dépression, George Pemberton et sa femme Serena s'installent en Caroline du Nord pour y développer une entreprise de bois de construction. Mais une épreuve va métamorphoser Serena, incarnée par Jennifer Lawrence, et mettre en péril le bel avenir qui s'offre à eux. J'ai lu le dossier de presse, hein, j'ai pas vu le film.
Vous avez bien fait.
Très bien résumé, mon cher ami.
Donc le mari, c'est Bradley Cooper. On rappelle quand même que ça fait la troisième fois qu'ils se rencontrent à l'écran après Happiness Therapy et American Bluff, deux acteurs que j'aime beaucoup. Mais alors voilà, de nouveau l'exemple qu'un film n'est pas spécialement obligatoirement réussi, même s'il a deux acteurs absolument prodigieux. Non, là, ça démarre plutôt bien pendant 20 minutes. J'aime beaucoup la scène de rencontre entre George et sa future femme, Serena. Ça se passe à cheval, c'est assez fantasmé, c'est très joli. Et puis alors après, ça part dans les rails d'un drame complètement banal qui va virer vers la tragédie. Alors qu'il y a plein de pistes intéressantes que Suzanne Beer évacue complètement, comme justement la grande crise, le capitalisme un peu sauvage qui s'installe, une femme forte aussi qui pourrait prendre les rênes de toute cette entreprise. Ben non, finalement, ça n'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est une bête histoire qu'on a déjà vu 40 000 fois avec tous les clichés. Et alors vraiment, quand même, il faut dire, quand on fait des ellipses dans un film pour donner un tout petit peu aux spectateurs des images un peu étranges, on revient pas juste derrière pour finalement montrer ce qu'on lui a pas montré. Parce que c'est un peu ça. Il y a un moment, je cite juste cet exemple et j'arrêterai là-dessus. Ouais. On voit une femme qui va mettre le feu à sa maison. On nous filme un briquet. Elle est dans son lit, on va comprendre que tout va brûler. La caméra sort, va filmer autre chose, on dit waouh, génial, on nous a ellipsé le moment. Eh ben non, direct derrière, elle nous montre une minute plus tard la maison qui flambe. Ben voilà, ça c'est le style, mais gros sabots de Suzanne Beer.
Tout est surligné.
Je trouve ça insupportable.
Raphaël Boucher, insupportable, Serena?
Ça va. Non, moi j'ai eu un plaisir premier degré, disons, à voir le film. Je me laisse emporter par cette adaptation vraiment mastoc. Mais c'est vraiment très très mastoc. C'est clair. Non, c'est assez lourdingue. Vous avez oublié parmi les pistes évoquées la fable écologiste.
Oui, tout à fait.
Oui, parce que il y a
de la boue.
Il y a de la boue et puis il y a une forêt qu'on est en train de couper. Ouais. Et donc là, on se dit tiens, il va y avoir quelque chose d'intéressant, d'autant que les personnages principaux du film seraient alors pour le coup les personnages les moins sympathiques et un peu les méchants d'aujourd'hui qui seraient vus comme providentiels. Il y a 100 ans, puisqu'ils amènent le travail et l'argent. Aujourd'hui, on a une vision de l'écologie qui est un petit peu différente, de la Terre, de notre mère nature qui est un petit peu différente. Non, mais voilà, moi, il n'y a rien de plus à dire, sinon qu'effectivement...
Alors on passe à Vic et Flo, parce qu'il est 56 57.
Non, juste une chose, c'est que effectivement, c'est une blonde intelligente, belle, qui arrive dans ce milieu d'hommes, qui la vivent évidemment
qui
comme
sont
une
bruns,
menace,
et qui la vivent
comme une menace surtout, et le film leur donne raison, quelque part, parce qu'ils en font parce que cette femme en réalité est folle et surtout elle a un problème avec la maternité et voilà, et je me dis que décidément au cinéma il est difficile d'être blonde et intelligente.
Vic et Flo ont vu Un ours, c'est un film de Denis Côté avec Pierre Etrobitaille, Romane Bourringer, Marc-André Grondin.
Vous l'avez...
Oui, c'est Grondin, c'est ça, hein?
Oui, Grondin
comme le poisson. Bah oui, le Roger Grondin.
Oui, tout à fait.
Bah oui, c'est comme ça que ça s'appelle.
On a pas beaucoup de temps, donc c'est pas mal. On va parler du Grondin pendant 2 minutes et puis ça nous évitera.
En tête du plan, parlons du Carcajou plutôt. Écoutez, c'est vraiment un film formidable qui montre un véritable talent. Moi, j'avais peu vu de films de Nicoté. J'ai vu Curling avec Xenia Locarno. Et là, je retrouve ce cinéaste qui fait des films décalés, étranges, très cruels. Il dit lui-même qu'il est mieux suggéré qu'imposé. Et c'est vraiment ça, parce qu'on suit ces deux femmes, donc Vic et Flo, deux anciennes détenues qui se retrouvent dans une petite cabane à sucre au fond des bois, qui essaient de reconstruire leur vie après être sorties de prison. Et puis, ben voilà, il y a des menaces qui convergent vers elles. Et y a tout flotte dans une atmosphère surréaliste et
c'est un menaçante. Film que vous conseillez, quoi.
Je conseille ça vivement. Et je laisse la parole à Raphaël.
C'est un peu l'anti-Xavier Dolan qui adore l'exubérance. Lui, alors au contraire, tout est hyper calme, hyper posé, peu de mouvements de caméra, des personnages quasiment statiques. Voilà, pour vous décrire le film en une phrase, c'est un peu, voilà, vous trouvez votre voisine très sympathique, eh bien un jour, elle vous colle un pain, vous n'avez rien vu venir. Voilà, c'est ça le cinéma de Nicoté. Vraiment, il n'y a jamais de suspense, il n'y a que des surprises au détour d'une scène, et c'est pour ça que c'est bien.
Il y a aussi un petit boy scout qui joue de la trompette comme un pied, et puis on le revoit une fois, beaucoup plus tard, il joue un peu mieux, mais c'est trop tard.
Et l'ours, il est où?
Excellente question.
Il faut aller voir le film.
Il faut aller voir le film. Ce film, c'est Vic et Flo ont vu un ours. Merci Antoine Duplan, merci Raphaël Boucher, merci Raphaël Wolf.
Infotrafic RTS
avec la FCR, les professionnels de la carrosserie en Suisse, fcr.ch.
Sur le contournement de Genève, attention, 12 km de bouchons entre Coppet et le tunnel de Vernier en direction de la France à cause d'un accident. Et toujours sur le contournement de Genève, le trafic est chargé et fortement ralenti entre l'échangeur de Perly et la Donne de Bardonnay. Et puis dans le canton de Vaud, c'est la route Roland-Corbérier à Yvorne qui est fermée en raison d'un accident.
Infotrafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS.
Vertigo, avec World Press Photo et Suisse Press Photo au château de Prangin.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour retrouver cette émission en podcast, c'est très simple, c'est dès la fin de celle-ci, rts.ch/vertigo. Sur les réseaux sociaux, nous sommes RTS Vertigo en un seul mot. On se retrouve demain en compagnie de Michel Corbeau, le directeur de l'Ensemble Vocal de Lausanne, fête ses 80 ans. Bonne soirée, à demain.
L'heure, avec Coop Primagusto et la pomme de terre Celtiane.
18h sur la première, c'est l'heure de retrouver Forum, présenté ce soir par Valérie Hoert et